France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet Campagne, bonjour. Cette semaine, nous vous offrons des initiatives en provenance de tous les départements, à commencer par une association récente qui s'inspire des premières écoles Être. C'est leur nom, né il y a 4 ans en France. Dans l'Allier, c'est Être en Bourbonnais qui nous intéresse plus particulièrement pour l'aide qu'elle apporte aux jeunes en décrochage scolaire afin de les orienter vers les métiers de la transition écologique. Autre initiative bien plus ancienne, puisque lancée en 1984, l'association Assamla, dont le but est de répondre aux besoins d'interprétariat médical et social. La visée globale est de faciliter l'intégration des populations immigrées.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Anaïs Hubert, bonjour.
Bonjour.
Anaïs, vous êtes à l'origine d'une association qui fait suite à d'autres associations qui sont des écoles, écoles Être, on va en parler. Alors là, votre association s'appelle Être en Bourbonnais, une école dédiée aux jeunes en décrochage et portée par une équipe de 20 personnes. C'est tout nouveau.
Oui, alors c'est tout nouveau. Alors effectivement, on est né le 1er juillet 2020. Mais on a réellement démarré nos formations de remobilisation donc auprès des jeunes décrocheurs en 2021, donc et exactement en juillet 2021. Donc on a eu pour le moment donc 3 sessions de formation donc qui ont pu accueillir du coup 18 jeunes donc de 16 à 25 ans auxquels on propose une découverte des métiers de la transition écologique puisqu'on y est très attaché, donc ici dans le Bourbonnais. Métier du maraîchage bio, puis métier ensuite de l'éco-construction et métier du bois.
La première école est née en 2017 en Haute-Garonne.
Exactement, voilà, c'était Être l'âge et depuis donc on a fait une sorte de fédération des écoles Être pour école de la transition écologique. Mmh. Et l'objectif est de pouvoir en développer d'ici 5 ans au moins une par département. Et il se trouve qu'on est donc la première dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et on espère que voilà il y en aura d'autres très prochainement qui suivront le chemin. Nous pour le moment on s'appuie notamment et on a un partenariat avec la Maison familiale rurale de Saint-Léopardin-d'Augie, qui est une petite maison familiale rurale à l'ouest de Moulins, donc oui. Dans l'Allier. Puis on a obtenu également le soutien très fort donc de Pôle emploi Allier avec son directeur donc Éric Chal, et puis également donc le soutien à la fois du conseil départemental de l'Allier à travers notamment le dossier leader qu'on a déposé auprès de l'Europe.
Alors vous parlez de parcours auprès des jeunes, de parcours métier vert avec des rencontres de professionnels chez eux, une expérimentation sur le terrain avec des chantiers pratiques et puis la présentation de tout panel d'emplois qui s'offre à ces jeunes par la suite emploi dans le monde de la transition écologique. Mais quelle est la durée de chaque session?
Nos sessions de remobilisation elles durent une semaine. Ça peut paraître très court mais oui. Malgré tout les jeunes donc ils découvrent d'une part on a des demi-journées, en fait ils sont 6 jeunes par formation. La première journée ils la font donc auprès du petit peuple du Bocage, donc en chantier participatif, et puis les autres journées sont partagées en deux avec des découvertes à la fois des maraîchages bio, donc avec notamment Michael Deschamps, Corinne Lafort, alors qui sont à la fois maraîchers avec Traction Animale, et puis Corinne Lafort et El Caron qui sont maraîchers mais en plantes médicinales. Et puis par ailleurs en éco-construction, donc avec notamment Thierry de Givry, Pascal Martin, et puis ensuite les métiers du bois avec Guillaume Bécard. Mmh.
Que deviennent-ils au bout d'une semaine? Où partent-ils?
Alors,
ensuite
au bout d'une semaine, ils sont accompagnés, un des autres, nos autres grands partenaires et prescripteurs, on va dire c'est la mission locale, et à travers la mission locale c'est les centres sociaux aussi, oui. Donc ils sont... souvent sous le label Garantie Jeune, ça leur permet de pouvoir poursuivre par des stages. Donc ils sont nombreux ensuite à venir ensuite faire des stages auprès soit des éco-constructeurs, soit des maraîchers. Et puis certains d'entre eux, notamment ceux de la session de juillet, ont pu décrocher des CDI aussi dans différents domaines ensuite, donc ce soit les espaces verts ou autres. Et ils le disent, Par exemple, je pense à un jeune qui nous dit voilà, j'ai trouvé le déclic, ça m'a donné un coup de boost pour m'en sortir. Avant, ma vie, c'était un peu le brouillon. Je me suis motivée pour mon entretien d'apprentissage et voilà, j'ai obtenu un entretien et un apprentissage derrière. Ou d'autres, hein, voilà, qui disent que du coup, ils ont apprécié notamment les échanges qui leur étaient proposés avec leur cœur et que ça les a remotivés pour poursuivre. Ça reste des petites choses, mais le fait est qu'en fait, on les accompagne beaucoup. On est très présent et on est aussi derrière tout ça toute une équipe de bénévoles qui sont là aussi par exemple pour préparer des pique-niques, des repas, des temps de qui sont autant de temps de convivialité pour des jeunes qui parfois ne bougeaient plus, ils le disent eux-mêmes. Hein.
Formidable, c'est une très belle idée. D'autres écoles vont suivre ce mouvement autour de cette remobilisation des jeunes qui sont souvent en décrochage scolaire, 150 000 chaque année, c'est pas rien, qui sortent du système scolaire. Et là, cette portée vers les métiers verts est vraiment prometteuse d'avenir. Merci Anaïs.
Merci beaucoup et merci encore pour votre émission. Voilà, et puis un grand merci à tous ceux qui voilà, ont pu permettre que ce projet naisse. Et puis en espérant effectivement qu'il fasse encore d'autres petits, parce que la planète en a bien besoin. Voilà, donc, et puis tous nos jeunes en ont vraiment besoin.
France Inter, carnet de campagne.
À propos de jeunes, je remarque régulièrement des jeunes créent des activités qui se veulent souvent, sinon toujours, d'intérêt général. Je pense en particulier à Lucas, 23 ans, créateur de la plateforme Mobi Travel. Mobi, M-O-B-E-E, et puis Travel, comme le voyage qui permet aux personnes à mobilité réduite de partir en vacances avec tous les aménagements nécessaires et sans surcoût. La plateforme a recensé et vérifié plus de 30 000 hébergements pour leur accessibilité, les hôtels, les gîtes, les campings, les villas ou les clubs vacances. L'utilisation est simple, sur le site mobitravel.com, vous tapez votre destination, puis les dates de réservation souhaitées, le nombre de personnes apparaissent, les offres labellisées Mobitravel, organisées en 4 paliers d'accessibilité. Le premier palier correspond au logement accessible à des personnes qui ont encore la possibilité de se déplacer seul, donc avec des aménagements simples qui facilitent le quotidien. Le dernier, quatrième palier est destiné aux personnes lourdement handicapées et dont tous les espaces sont accessibles sans effort, avec la possibilité d'utiliser un matériel médical adapté. Par ailleurs, la plateforme a adopté le principe de l'arrondi solidaire sur le prix du séjour qui est reversé à Handicap International. Effectivement, Mobitravel s'engage de son côté à doubler ce micro-don et 2 projets humanitaires ont été choisis avec Handicap International à Madagascar et au Cambodge. Et pour les jeunes, mais les plus petits, une invention qui va aider les professeurs des écoles qui sont nombreux à nous écouter en ce moment, j'imagine, salut à eux et à elles. 3 professeurs des écoles en quartier sensible à Rennes ont testé pendant un an un traitement de texte pour apprendre à lire. Il s'appelle Ridisi, R-I-D-I-S-I, et selon leur témoignage, les enfants de CP, leurs enfants, leurs élèves, ont acquis un niveau de lecture proche de celui de CE2, comme l'apprentissage de la lecture est une grande cause nationale 2021-2022. Nos profs ont inventé une méthode qui permet un gain de temps en différenciant les aptitudes de chaque enfant en apprentissage de la lecture. Ça se présente sous forme de grille dans laquelle chaque graphème, c'est-à-dire chaque écriture du son, est associée à un pictogramme, le son « ch » à un chat, bah oui, bravo. Quand la création de la grille est terminée, elle s'adapte au traitement de texte qui apporte des éléments de lecture, le grisement des lettres muettes, par exemple, ou le soulignement des sons complexes, et puis l'insertion des pictogrammes. Le logiciel Ridisi sera proposé normalement aux enseignants intéressés pour la rentrée 2022. Il y a une page Facebook, c'est Ridisi Diffusion. Hervé Divet, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Hervé, vous êtes le président et l'administrateur d'une association géniale, elle s'appelle Assamla. C'est Asso Santé Migrants de Loire-Atlantique, née en 84 avec le souci que des personnes venues des lointains qui se retrouvent à l'hôpital et qui comprennent pas ce qu'on leur fait et qui ne peuvent pas communiquer pose un vrai problème.
Ouais, c'est exactement ça. Alors juste une petite précision, je ne suis plus le président de l'association parce qu'à un moment donné, il faut passer de relais, mais je suis toujours effectivement administrateur. En fait, l'interprétariat médical et social est né de ce constat-là. C'est-à-dire que la question de la langue et de l'échange effectivement dans de bonnes conditions entre des personnes qui ne maîtrisent pas la même langue, dans le domaine du soin, dans le domaine du social, c'est primordial.
Il y a une difficulté, c'est de suivre ces personnes, parce que là, vous avez 20 interprètes professionnels, salariés de l'association, qui s'expriment en 17 langues. Qui sont ces interprètes ?
Ces interprètes, en fait, ils sont souvent eux-mêmes porteurs de culture, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont nés à l'étranger. Pour le plus grand nombre, à 95%. Voilà. Et ils ont une proximité avec, à la fois, bien sûr, la France, leur pays, mais aussi une autre culture d'origine. Ce sont des interprètes qui sont des professionnels. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, être interprète dans le médical ou dans le social, bah, c'est aujourd'hui, c'est un métier. Et ça nécessite des compétences. Alors, des compétences en langue, comprendre aussi dans quel cadre on intervient. C'est-à-dire que c'est pas pareil d'intervenir dans un service de protection maternelle et infantile, dans un centre social, dans un service de pneumologie ou dans un service de psychiatrie. Et puis, il y a l'autre domaine de compétences, c'est la question de la bonne place. Être à la bonne place, toujours. Être interprète dans une relation, et c'est particulièrement vrai quand on est dans le médical ou dans le social, c'est rester à sa juste place. Comment effectivement être à la fois en confiance avec le professionnel et avec le patient, mais également avoir un souci de réserve par rapport à ce qui est dit. Et les interprètes dans le domaine de la santé portent des choses qui sont particulièrement compliquées. Je vais juste prendre un exemple pour pas être trop long. Il faut imaginer que les interprètes se retrouvent dans des situations d'entretien où le médecin va annoncer un diagnostic très lourd à une personne ou par rapport à l'enfant de la famille. Quand vous annoncez effectivement, comme c'est arrivé à des interprètes, que quand vous êtes présent dans un entretien où le médecin annonce aux parents que un enfant a une leucémie par exemple, il faut pouvoir le porter, donc il faut pouvoir effectivement être à la bonne place dans l'entretien, mais également avant et après l'entretien.
Vous étendez votre toile, parce que tout est né avec des professeurs du CHU de Nantes et des militants associatifs nantais, vous élargissez à la région maintenant, il y a un réseau national qui est le réseau RIM, un interprétariat médical et social. Quand on résume le contexte de l'hôpital aujourd'hui, fermeture de lits, manque de salariés, on va dire l'interprétariat, on n'a pas le temps de s'en occuper.
Bah, c'est un peu le risque, effectivement, on le sait bien, mais très clairement, c'est pas vécu comme ça par les praticiens hospitaliers et par les soignants. Parce que eux-mêmes ont découvert quand même au fur et à mesure des années la nécessité de cette ressource-là. On peut parler par exemple de la psychiatrie. On comprend bien qu'on ait besoin d'un acte médical, d'aller envoyer un patient passer une radio ou un scanner. Dans le domaine du soin, la parole est aussi très importante. Comment faire en psychiatrie si on n'a pas effectivement l'interprète ? Alors, il faut dire, malgré toutes les difficultés, malgré le temps qu'il a fallu, que petit à petit, en France, l'interprétariat médical et social a le droit de citer. Désormais, effectivement, depuis 2017, dans le Code de la Santé publique, il y a une référence explicite, il y a un décret qui avait été passé à l'époque pour effectivement développer la médiation et l'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé. La Haute Autorité à la Santé, dont on entend beaucoup parler depuis quelques mois pour malheureusement un autre contexte, ouais. La Haute Autorité à la Santé a publié un référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques pour les interprètes. Bien sûr, les pouvoirs publics, et ce faisant les associations, manquent de moyens, c'est-à-dire qu'il faut un peu se battre, il faut militer, il faut convaincre. C'est comme ça, mais les choses avancent.
Et dernière chose, Hervé, vous avez les moyens de salarier 20 interprètes professionnels.
C'est le quotidien en fait des bénévoles de l'association, c'est-à-dire que ce sont les pouvoirs publics qui donc c'est de l'argent public principalement. La crainte parfois c'est d'être une variable d'ajustement. Ouais. Il suffit qu'il y ait tout d'un coup une loi qui modifie y compris ou qui resserre, et on voit bien les propos actuellement sur les questions d'immigration. On est toujours dans des climats où publiquement ces questions-là sont difficiles. Effectivement, obtenir de l'argent public pour payer le salaire d'interprètes qui vont aider des patients migrants à se faire comprendre, à être compris à l'hôpital, c'est pas toujours évident. Les organismes publics s'ouvrent aussi à d'autres techniques pour rechercher des prestations, et donc via des marchés publics. Et là, on se retrouve souvent dans des enjeux de concurrence avec par exemple des multinationales, des groupes européens qui vendent de l'interprétariat partout en Europe.
Effectivement, belle bataille. Gardez le cap, c'est tout ce que je peux souhaiter. À samla.fr pour l'asso Santé Migrants de Loire-Atlantique. Merci Hervé.
Merci Philippe.
Comme j'ai du temps aujourd'hui, un petit mot sur un magazine trimestriel que l'on apprécie énormément, qui s'appelle So Good. Le dernier né du groupe So Press de Franck Hannaise, qui a pour ambition non pas de nous doper de bonnes nouvelles, mais de nous dévoiler un monde moins pire, ce qui revient en partie à nous transmettre des bonnes nouvelles, un peu cousin des carnels trimestriels en cours de décembre, janvier, février 2022 évidemment, titre en couverture qui sauvera le Grand Bleu avec un détournement de l'affiche du film de Luc Besson. Et puis dans ce numéro, il y a la rencontre avec les fondateurs d'une communauté incroyable née d'un partage d'entraide sur Facebook, Wanted Bon Plan, qui a fait ses preuves lors des attentats à Paris en 2015, où plusieurs milliers de personnes sur ce réseau social ont proposé d'ouvrir leurs portes aux personnes en détresse. Il y a un Wanted Café à Bordeaux maintenant, avec des plats suspendus. Il y en a un qui va ouvrir à Paris. Et puis entre-temps, un tiers-lieu aussi a été inauguré à Bordeaux. C'est à retrouver dans le magazine SoGoodStories.com.